Culture Club, en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury.
Chaque jeudi de ce mois de juillet, nous nous arrêtons sur l'édition chrétienne, catholique. Comment se porte ce secteur si important? Quels sont les succès de l'année? Quelles orientations pour la ligne éditoriale? Quelles perspectives de rentrée? Et aujourd'hui, Jean-François Roth quitte son siège de chroniqueur, d'accompagnateur, parce qu'il va nous présenter, il va incarner aujourd'hui les éditions jésuites. Alors les éditions jésuites, on va essayer de voir comment ça se passe, comment ça se déroule. Il y a 7 thèmes que vous allez nous proposer. Mais Jean-François Roth.
Je propose un peu d'histoire aussi peut-être d'abord, pour dire comment sont nées ces éditions jésuites.
Alors, comment sont nées ces éditions jésuites, Jean-François Roth?
Parce qu'en fait, il s'agit de la fusion de maisons qui existaient déjà, parce que une des caractéristiques principales des éditions jésuites, c'est que c'est une édition franco-belge, ou plutôt belgo-française.
Comme Duquel Brouwer.
Oui, mais plus même que Duquel Brouwer, parce que en fait, les éditions jésuites, ça a été la volonté de la compagnie de réunir 3 maisons, 2 belges et une française. En quelque sorte, les belges étaient Lumen Vitae, Lumen Vitae adossée d'ailleurs à une revue. Donc, comme la lumière de la vie, mais c'est une revue de catéchèse, de réflexion sur la catéchèse et de la transmission de la foi, qui d'ailleurs, Lumen Vitae est un peu en train de quitter les éditions jésuites comme telles. Une grande maison à Namur qui s'appelle Fidélité. Et puis, à Paris, il y avait une maison qui s'appelle d'ailleurs toujours Lessius. Et peut-être insister trop, mais aujourd'hui, vous savez que les jésuites ont réuni la province belge francophone et la province française pour faire une seule province jésuite. Et la fusion de ces maisons est un peu une des entreprises aussi de cette nouvelle province de la Compagnie de Jésus.
Donc les 3 marques ont disparu au profit des éditions jésuites.
Voilà. Oui. Mais aujourd'hui, c'est un peu un glissement. Souvent, les livres présentent à la fois l'ancienne édition, par exemple Lessius, et aussi, on rajoute de plus en plus éditions jésuites. L'idée étant que édition jésuite prennent un peu la place générale.
Bah, c'est pas mal.
C'est très bien. Je pense que c'est une bonne...
Le CERF ne met pas édition dominicaine.
Non, mais bon. En fait, non, mais l'édition jésuite, puisque vous parlez d'un grand ancien, d'une grande maison comme le CERF, l'édition jésuite, c'est une maison plus modeste que le CERF, mais voilà, une petite maison qui essaie justement de transmettre un peu quand même la ligne particulière de la compagnie. Donc d'ailleurs, aujourd'hui, on peut le dire, peut-être, il me semble que beaucoup de chrétiens, et pas seulement, s'intéressent à ce qui fait la spécificité, justement, de la compagnie.
Le premier, c'est quand même les exercices spirituels. Voilà.
Alors, je propose à l'animateur de suivre un peu quelques lignes d'orientation fondamentale, et je commence effectivement par les exercices spirituels. Alors, je cite un des titres qui a été un succès cette année, qui s'appelle « Le discernement des esprits selon Ignace de Loyola », c'est par Dominique Salin, donc sous la marque Lessius. Et donc, discernement des esprits, c'est un mot clé, évidemment, de la spiritualité jésuite. Il est peut-être moins clair qu'il n'y paraît. On sait quand même que ça s'origine dans l'expérience même d'Ignace de Loyola. Il a été blessé à Pamplune, il est en convalescence dans le manoir familial, et il y a exactement 2 livres.
Il a les 2 jambes cassées.
Une seule, mais peu importe. Il est immobilisé, il y a seulement 2 livres, mais il y en a 2 dans le manoir. Il lit donc la vie, Amadis des Gaules, les chevaliers, et il lit la Vie des saints de Jacques de Voragine, donc la légende dorée.
La légende dorée.
Et alors il fait cette remarque que quand il lit ce qui l'intéresse le plus, les romans de chevalerie, il est bon et ça lui fait beaucoup d'excitation, etc. Mais qu'après, il est assez vite, ça retombe très vite, il est un peu triste, il est même un peu dégoûté. Alors que quand il lit la vie de saint François d'Assise et de tout ce qu'il a fait, au début, il est un peu surpris de toutes les pénitences et de toutes les difficultés qu'il a. Et après, il est tout à fait dans la joie et le.
Il n'y a plus de mélancolie.
Et donc, il se dit, ah, mais il y a peut-être un signe là, dans le fait que certaines choses nous conduisent vers le bien, vers la vie, et d'autres nous conduisent plutôt vers la tristesse. Et donc, voilà. Alors, ce livre-là, on ne peut pas le résumer, mais Dominique Salin fait une étude un peu de cette notion de discernement des esprits. Et effectivement, les séances jésuites ont comme une priorité de faire bien connaître sûr. Les exercices. Dans... Alors, je cite un deuxième...
Alors, les exercices, ça ne se lit pas.
Hein. D'ailleurs, ça ne se lit pas, c'est vrai, absolument.
Ça ne se lit pas, ça se pratique.
C'est une méthode pour choisir sa vie, prendre une décision sur sa propre vie, dans sa liberté. Où va sa liberté ?
C'est la psychanalyse de l'âme.
Si on veut. En tout cas, c'est une méthode qui est de plus en plus utilisée et qui montre sa fécondité dans beaucoup pour beaucoup de personnes. Alors, je prends dans cette même ligne un autre auteur qui est bien significatif aussi, bien représentatif des éditions jésuites, c'est Bruno Réjean, qui a fait un livre qui s'appelle « La saga d'Abraham », où il a repris donc toute une lecture du livre de la Genèse, et puis en deux volumes, un petit livre qui s'appelle « De la vie spirituelle », sous-titré « Repères », et là je crois qu'on est tout à fait aussi dans la ligne jésuite, c'est-à-dire comme il a passé sa vie à donner des retraites, à accompagner des gens, il a repéré un certain nombre de choses, et il a des remarques très très concrètes qui peuvent intéresser tout le monde sur la vie spirituelle à partir de son expérience d'accompagnateur.
Rappelez-nous le titre.
Ça s'appelle « De la vie spirituelle », et l'autre livre c'est « La saga d'Abraham ».
Alors ensuite, nous passons à la transmission de la foi.
La transmission de la foi, parce que j'ai pris aussi un des grands succès des éditions jésuites ces derniers temps, c'est celui de François Varillon.
Formidable livre.
Cette conférence inédite sur la foi.
Formidable. Nous l'avons présenté
aussi
ici.
Par Dominique Salin.
Oui, nous l'avions présenté ici. Et c'est un des livres qui m'a le plus marqué cette année.
Merci de dire ça, mais je suis d'accord avec vous, parce que c'est les conférences qui avaient été prononcées à Béziers, il y a déjà un certain nombre d'années, mais qui avaient été totalement enregistrées, et donc c'est vraiment la parole même de François Varillon. Et on retrouve...
Et il parle aux jeunes.
Il parle aux jeunes, et il parle bien. Et il prend les grandes questions fondamentales et il sait intéresser son public. C'est vraiment...
Il est captivant.
Et là aussi, c'est une grande tradition jésuite parce que c'est quelqu'un qui a la passion de faire connaître l'Évangile. Enfin, il n'est pas le seul, évidemment, mais il y met un talent... une capacité de persuasion, un enthousiasme remarquable.
Je rappelle les sept conférences, c'était le péché originel, peut-on croire au miracle, qu'est-ce qu'un sacrement, que signifie le Christ est mort pour nous, l'Eucharistie, le sens de la mort pour le chrétien, et enfin, faut-il être traditionnel. Et ce sont vraiment sept conférences, sept questions fondamentales.
Voilà, c'est des questions fondamentales. Il prend pas des questions faciles,
non.
Il prend des questions fondamentales. Il leur dit, écoutez, peut-être que si je vous parle de sacrement, vous les jeunes, là, en terminale, vous allez me dire, bon, bah, ah oui, il essaie de leur montrer en quoi c'est très important et qu'est-ce que ça veut dire.
Et il y a une vigueur de son verbe qui est indépassable.
Alors, et vraiment, voilà, François Varillon est maintenant évidemment un peu un grand ancien, mais ça reste encore très très actuel. Alors pour aujourd'hui, je veux citer un des grands auteurs actuels des éditions jésuites, c'est Michel Fédoux, qui est professeur au Centre Sèvres, donc un théologien. Je commence par un de ses plus petits livres qui s'appelle « Que penser des dogmes ?» Donc ça, c'est Fidélité. « Que penser d'eux ?» C'est une collection des éditions jésuites, un peu comme un « Que sais-je ?» Donc c'est tout petit, mais c'est très travaillé, de façon à donner l'essentiel des choses. Et là aussi, le titre est peut-être pas... Enfin, les dogmes, là aussi, tout le monde va se dire, oh là là, en quoi c'est vraiment lisible aujourd'hui, ça. En fait, si vous voulez un petit condensé, là aussi, des tout premiers conciles, et donc des premiers dogmes chrétiens, les dogmes fondamentaux sur la Trinité, en particulier la christologie, prenez ce petit livre-là, non seulement vous aurez l'histoire de ces conciles, mais en quelques pages, moins de 100 pages, vous aurez un condensé extrêmement clair. Parce que Michel Fédoux est un homme qui a l'esprit clair. Il est remarquable pour ça. Alors, je ne sais pas si j'ai beaucoup le temps, mais il vient d'avoir un prix de l'Académie française, il a eu le prix Ratzinger à Rome, il est très, j'allais dire, très reconnu et à juste titre. C'est d'abord quelqu'un qui a travaillé les lettres classiques. Il a fait une histoire de la littérature grecque d'Homère à Platon. Alors là, c'est un gros livre, mais si vous avez envie d'avoir aussi une synthèse par quelqu'un qui connaît parfaitement la question, prenez ce livre-là, Histoire de la littérature grecque de Homère à Platon. Et on peut citer plein d'autres livres de lui, mais c'est un homme à suivre. Donc je rappelle le titre de celui-là, Que penser de les dogmes.
Alors, Que penser d'eux, c'est une collection, hein. Et donc on a tout un catalogue passionnant sur Que penser d'eux, justement. C'était chez Fidélité, c'est dans les éditions jésuites. Alors, Gustave Martelet...
Oui, bon, là, bon, on en a parlé aussi, juste en passant, parce qu'on ne va pas parler que des anciens, mais voilà, aussi, on a toujours plaisir à retrouver ces grands maîtres dont Gustave Martelet. J'ai très tôt été convaincu, c'était repère d'une théologie existentielle,
Et une préface de Michel Fédoux.
Voilà. Et donc on retrouve la voix unique de Martelet, qui avait aussi le grand souci de rejoindre les gens d'aujourd'hui, de parler clair, sans rien lâcher de la profondeur de la théologie, mais de la faire passer dans le public. Et c'est vraiment remarquable. Voilà.
Alors, ça c'était pour la transmission de la foi. Ouais. Maintenant,
alors je parle troisième ligne,
oui, un peu l'accompagnement des personnes.
L'accompagnement des personnes. Là, je prends pour l'actualité un homme qui s'appelle Patrick Lang, qui a fait un guide pour préparer son mariage et parfaire sa vie conjugale.
Alors, là, nous l'avions reçu, et je peux vous annoncer que ça fera partie des rediffusions du mois d'août.
Parce que il a le gros intérêt de ce livre-là, c'est qu'il a accompagné, tenez-vous bien, des centaines de jeunes désirant se marier. Donc il a une expérience incroyable dans le diocèse de Versailles en particulier. Et il a mis tout ça en ordre et il fait un guide, pas seulement d'ailleurs pour les fiancés, mais aussi pour tous les couples, avec plein de réflexion à la fois fondamentale, réflexion de bon sens, plein de questionnaires pour que chacun puisse avancer, converser, discuter avec son conjoint ou avec son fiancé. C'est remarquable. Il avait fait juste avant, toujours un peu dans la même ligne, divorcer, remarier, de l'exclusion à l'intégration. Et là, un livre formidablement utile aussi, parce que Amoris Laetitia, donc l'encyclique du pape François, a changé la donne par rapport aux divorcés remariés. Il n'a pas changé le droit canonique, mais il a fait en sorte que les personnes qui ont relancé un couple après le divorce ne soient pas...
Stigmatisé et
considéré comme disqualifié
et abandonné sur le parvis.
Et donc, il a mis en place tout un chemin pour accompagner, discerner, former. C'est formidable. Et ce livre-là peut être très très utile à beaucoup de gens, divorcés, remariés, de l'exclusion à l'intégration. D'ailleurs, je signale que les éditions jésuites font aussi une édition, par exemple justement de La joie de l'amour, Amoris Laetitia, une édition commentée qui est très précieuse, parce que on a évidemment le texte intégral, mais on a aussi tout un tas de notes qui expliquent les termes, qui expliquent quelquefois les problématiques, et qui fournissent aussi des témoignages. C'est une présentation remarquable du texte du... Parce qu'un texte encyclique...
C'est une édition présentée et annotée sous la direction du Service National Famille et Société de la Conférence des évêques de France et de la Faculté de théologie du Centre Sèvres, avec un guide de lecture et des témoignages, comme vous le dites.
Alors là, voilà, je cite aussi, mais rapidement, parce qu'on a le temps de fil, Stéphane Roux, c'est un haut fonctionnaire qui a décidé avec sa famille de faire une pause d'un an en allant vivre dans une communauté.
Oui.
On l'avait reçu aussi, une communauté de marginaux, une communauté qui recueille des gens effectivement en difficulté ou en désir de refaire leur vie, de recréer leur assise personnelle. Et donc il fait un récit, c'est un témoignage, mais c'est un témoignage très réfléchi sur qu'est-ce qui fait le fondement finalement de la vie, alors que...
Et comment tout abandonner, parce qu'il a un poste à très haute responsabilité, comment tout abandonner pour vivre au plus près de l'autre.
Voilà.
C'est un très beau livre.
Et la rencontre de l'autre, de l'autre très différent,
oui.
Y compris justement en coupant du bois en faisant la cuisine. C'est un beau texte qui s'appelle Un pas de côté, Stéphane Roux.
Absolument. Alors après les exercices spirituels, après la transmission dimension de la foi et l'accompagnement des personnes, parlons de la Bible.
Alors la Bible, là, il y a une collection entière d'éditions bibliques qui s'appelle le Livre et le Rouleau. Il y a beaucoup de titres qu'il faudrait citer, mais j'en cite quand même un en particulier, parce qu'il fait l'actualité, c'est le livre de Jean-Noël Aletti, l'Évangile de Luc. C'est un commentaire, donc là c'est un gros livre qui suit l'Évangile de Luc pas à pas, un livre qu'il faut mettre dans sa bibliothèque. C'est pas vraiment un livre pour une lecture cursive, mais si on a envie de réfléchir sur un tel passage, si on a besoin d'en parler, si on veut faire une homélie, c'est un livre qui fournit les clés. Un commentaire, c'est par définition quelque chose qui rassemble tout ce qui a été un peu accumulé dans les différents spécialistes pour l'avoir sous la main. Oui. Donc c'est un livre qu'il faut avoir effectivement sous la main quand on travaille un texte pour essayer de ne pas oublier des choses essentielles.
Et alors, je peux citer idéal pour les prêches.
Effectivement. Et pour tout, même au moment où d'une méditation, au moment où on repense à une parabole, on se dit, tiens, peut-être que là, on peut trouver justement une profondeur, peut compléter un peu ce à quoi on pense tout de suite. Ça ouvre beaucoup de perspectives. Et puis ça, ça évite de se perdre dans des interprétations qui seraient trop loin du texte. Alors, il y a aussi, par exemple, Guy Van Omissen, qui a fait un livre de David à Jésus, sur la figure du Messie. On avait reçu aussi le père Carrière. Lui, alors aussi, je conseille ça à tout le monde, parce que c'est pas souvent qu'il fait... Le livre s'appelle « La sagesse, où la trouver ?» C'est un commentaire de tous les livres sapientiaux de la Bible, ce qui n'est pas si fréquent. Et c'est des livres qu'on connaît pas si bien que ça. Et là, c'est un super guide, « La sagesse, où la trouver ?» Il y a aussi André Venin, qui a un très beau livre sur les psaumes. Il y a toute une collection donc qui permet... Alors, c'est des ouvrages un peu plus savants que ce qu'on a quelquefois.
Oui.
Mais c'est pas pour ça qu'on doit avoir peur de ces livres, au contraire, parce que c'est le travail souvent d'une vie.
Hein. Oui.
Les gens qui ont passé énormément de temps à lire, à réfléchir et à collationner un peu toutes les bonnes données sur la question et qui vous resserve ça sur un plateau. C'est formidable.
Et Dieu sait que les jésuites sont fortiches là-dessus. Voilà. Alors, après la Bible, l'histoire,
alors... Là, moi, j'ai un favori dans les éditions catholiques, éditions jésuites et de Lessius, c'est John O'Malley, c'est un jésuite américain, qui a fait trois grands livres sur le Concile Vatican II,
oui.
Le Concile Vatican I et le Concile de Trente. Et à chaque fois, il le fait avec... Bon, c'est un historien, c'est tout à fait sérieux, mais il le fait avec un humour, une capacité à en parler qui est formidable. Et donc, je prends surtout l'événement Vatican II. Je cite ça parce que aujourd'hui, quand même, moi je suis à l'âge que j'ai, je suis contemporain de Vatican II, mais précisément les générations après moi n'ont pas été contemporaines de l'événement. Et donc, beaucoup de jeunes, on leur parle de Vatican II, on peut leur citer les textes de Vatican II, mais comment ça s'est passé le concile? Pourquoi il a été réuni? Comment ça a marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ce livre-là est remarquable, vraiment. Je trouve que c'est le meilleur livre pour connaître le...
Avec Monseigneur Lénard qui dit « on ne se connaît pas ».
Alors en tout cas,
et qui fait arrêter le début du concile pour que les évêques puissent se connaître.
Et donc voilà, il a fait le Concile de Trente. Par exemple, le Concile de Trente, c'est un livre passionnant, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et avec ces trois livres-là, vous avez un demi-millénaire de l'histoire de l'Église et en fait de l'histoire de l'histoire tout court, en tout cas de l'Occident. Et cet homme a un talent pour faire vivre ces événements-là et en montrer les conséquences actuelles. La conséquence actuelle du Concile de Trente, c'est incroyable.
John O'Malley, l'événement Vatican II.
Alors, il y a toute une collection.
Il y a les questions brûlantes. Hein.
Oui. Alors, questions brûlantes, je cite quand même qu'il y a toute une petite bibliothèque jésuite d'histoire. Par exemple, suppression et rétablissement de la Compagnie de Jésus.
Ah oui.
Parce que c'est quand même un événement important. Les jésuites, à un moment, ont été supprimés par le pape.
Oui.
Ils ont été résumés. Comment ça s'est passé? Pourquoi? C'est important. Et puis, je ne peux pas me pas citer un peu Ritchie quand même. Hein,
évidemment.
Alors, Thierry Ménard a fait un Matteo Ricci, a découvert du christianisme. Tout petit livre. Mais si on veut... s'enthousiasmer à cette, à cette
ouverture de la Chine
et à cette volonté d'aller jusqu'au d'aller rencontrer la culture chinoise, l'assimiler pour mieux parler.
Et créer le dictionnaire franco-chinois, c'est le grand Ritchie, ça c'est formidable.
Alors effectivement aussi, les Jésuites ne sont pas que dans les choses faciles. Ils publient aussi un certain nombre de livres qui sont sur les sujets compliqués. Par exemple, vient de paraître de Bruno Vandenbulck, Le couple homosexuel et la vie baptismale, sous-titré Repère éthique pour la vie chrétienne. Voilà un livre qui dit, bon, comment est-ce qu'on peut être je suis homosexuel, je suis croyant, je veux l'être, je veux être disciple du Christ, comment, par rapport à, est-ce que c'est, naguère, ça paraissait totalement, pratiquement exclu, ou en tout cas caché, secret. Et là, il y a toute une réflexion sur la
question. C'est très important.
Et l'idée, justement, est de faire une réflexion. Pas simplement une militance ou des recettes, c'est l'idée. Comment est-ce qu'on peut aborder vraiment, qu'on peut réfléchir à la question. De même, par exemple, c'est un petit livre qui a eu déjà quelques temps, mais qui est formidable. Ces fidèles qui ne pratiquent pas assez, quelle place dans l'Église, de Valérie Le Chevalier.
C'est important. C'est
parce
c'est
que on dit toujours, il y a beaucoup de gens qui se déclarent catholiques, qui ne sont pas pratiquants. Alors on les méprise un petit peu en disant, mais quand même, ils devraient pratiquer. Oui, mais bon, en même temps, quelle est leur foi et on peut, comment est-ce qu'on peut vraiment ne pas les laisser justement sur les marges. Et puis, il y a un livre, par exemple, sur le diaconat féminin, pareil, par quelqu'un qui fait partie de la commission qui, à Rome, réfléchit à la question. Tout ça pour mettre en sur la table des réflexions approfondies sur des questions importantes.
Pour parler comme Vatican II, scruter les signes des temps.
Voilà. Et puis, ça fait partie vraiment, je crois, de la tâche des éditions jésuites. Un peu d'ailleurs aussi peut-être que, par exemple, comme la revue Études, ou le Centre Sèvres lui-même, que d'essayer justement de ne pas en rester à des simplismes, mais de trouver de quoi nourrir une réflexion profonde.
Et enfin, vous avez les témoignages.
Eh bien oui, et là, c'est plutôt, c'est plus qu'un témoignage, c'est une étude qui vient de paraître. Pour tout dire, j'ai pas encore regardé à fond ce livre, mais qui est un livre consacré à Michel de Certeau, qui a été, j'aurais pu le citer en même temps que Feydeau tout à l'heure, qui a été un grand intellectuel, spécialiste lui aussi de l'histoire de la spiritualité. Il a beaucoup travaillé à la revue Christus pendant longtemps. Il était aussi analyste, il a beaucoup, surtout historien, il a réfléchi sur l'histoire. Et c'est aujourd'hui, il est mort jeune, malheureusement, mais aujourd'hui, c'est réellement quelqu'un qui est aussi une référence. Et ce livre-là, c'est une thèse qui a été publiée par l'ESSIUS, Michel Le Certeau, Épistémologie, érotique et deuil. C'est un livre, qui est une étude profonde, qui ne peut pas... Enfin, c'est pas un roman de gare, très clairement, mais on a une référence à un auteur tout à fait important, et le pape François dit « De Certeau reste le plus grand théologien pour aujourd'hui ». C'est pas rien. Et puis, est-ce que je peux citer encore petit livre de Paul Valadier, qui s'appelle...
J'aime beaucoup Paul Valadier.
Qui s'appelle « Rigorisme contre liberté morale », puisque c'est une année pascale.
Ouais.
Il a fait donc ce petit livre sous-titré « Les provinciales, actualité d'une polémique anti-jésuite ». Et c'est un tout petit livre, mais qui a...
Un livre court, c'est un grand livre, mais un livre court.
Exactement, bonne remarque. En fait, il a le culot de dire que dans la discussion entre Pascal et les jésuites, c'est pas Pascal qui avait raison. Alors en fait, évidemment, Pascal a écrasé ces pauvres jésuites de son talent, il a mis tous les rieurs de son côté, et encore aujourd'hui. Mais quand on regarde bien la question, c'est quelquefois un peu facile de justement de se draper dans le rigorisme absolu des principes, alors que ces braves casuistes, ils essayaient de voir comment concrètement, quand on était magistrat, quand on était marchand, quand on était courtisan, quand on était roi, comment est-ce qu'on pouvait faire pour être vraiment disciple du Christ. Il fallait regarder les cas. Alors évidemment, peut-être que certains sont tombés dans le laxisme, mais malgré tout, Paul Valadier prend leur défense, il dit en fait c'était les gens qui avaient le souci d'incarner la pratique chrétienne, et c'était des confesseurs qui accompagnaient vraiment les gens et qui essayaient de les faire évoluer, et pas simplement de se donner le beau rôle.
Oui, oui.
C'est un magnifique livre, Paul Valadier, Rigorisme contre liberté morale, les provinciales, actualité d'une polémique anti-jésuite.
Eh bien, merci beaucoup Jean-François Roth pour cette présentation très complète des éditions jésuites qui se partagent entre les exercices spirituels, la transmission de la foi, l'accompagnement des personnes, la Bible, l'histoire, les questions brûlantes et les témoignages. Merci encore, merci à Cédric Cobat pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour le partage sur les réseaux, si vous voulez réécouter cette émission. Alors demain, vendredi, nous reprenons, nous terminons, je ne sais plus, le feuilleton de la Success Story soudinière avec le Théâtre Actuel. Il est question toujours d'Avignon, parce que nous sommes au théâtre et au mois de juillet. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.